franceinter.fr.
Il est 8h10.
Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité, Léa Salamé, le président du Conseil supérieur des programmes.
Bonjour Michel Lussault.
Bonjour.
Alors 15 sur 20, là, la note que Charline Van Hanecker mettait à Patrick Cohen pour son édito. 15 sur 20, c'est quoi? A, B, B+, A-, c'est quoi?
Ça n'est pas l'essentiel surtout, parce que ce qui est important lorsqu'on évalue, ça n'est pas tellement de traduire cela en notes, c'est plutôt d'être capable de véritablement saisir ce qu'un élève, Patrick Cohen ce matin, sait, ne sait pas, maîtrise, ne maîtrise pas. C'est-à-dire, c'est la qualité même de l'objectivation qu'on peut faire d'un niveau. Et ensuite, on peut le traduire en notes, en lettres, en couleurs, en zèbres, en gris animal.
Et pourtant, si vous lui mettez 14 sur 20, il aura envie d'avoir 18 demain, non? Ça, c'est pas motivant?
Non, ce qui va le motiver, c'est surtout qu'on soit capable de lui dire là, tu as bien fait, là, tu n'as pas très bien fait, là, tu as inversé un mot, là, tu n'as pas complètement été cohérent, pas complètement convaincant. L'important, c'est la qualité de l'information qu'on renvoie, et parfois une note, c'est une information de très faible qualité, il faut le dire.
Alors les notes, instaurées en 1890 dans l'école républicaine française, elles ont été plusieurs fois contestées, elles ont survécu à tout, même à mai 68, et vous pensez que vous allez y arriver, vous pensez sérieusement que vous allez réussir à supprimer les notes?
Écoutez, elles ont même été contestées par Alain Perfit, qui n'était pas quand même le gauchiste de l'année, donc je crois qu'on peut considérer que c'est une vraie question, une question de fond, et autour de ce problème, j'aimerais qu'on arrête de faire polémique autour de la note. Vous savez, il y a un fameux problème, un fameux proverbe, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. J'ai l'impression que beaucoup de gens, y compris d'anciens ministres, aujourd'hui, regardent plus le doigt que ce qu'il faudrait viser. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que bien évaluer pour que nos élèves progressent, pour que tous nos élèves progressent, puisque finalement, l'école de la République, elle doit faire réussir tous les élèves.
Alors, pardonnez-moi de regarder le doigt ce matin, mais en quoi les notes sont malveillantes, traumatisantes, humiliantes, démotivantes?
Elles ne le sont pas en soi, elles le sont si elles saturent l'information qu'on redonne aux élèves et aux familles. Elles le sont lorsqu'elles deviennent des critères de sélection, de hiérarchisation sociale, des instruments pour que la centrifugeuse sociale de l'école... Nous savons que l'école française renforce les inégalités, personne ne va le nier, parce que tout ça est appuyé sur des données objectives et chiffrées. Donc les notes peuvent produire l'effet inverse, et lorsqu'on pense encourager, on décourage, et surtout les notes ont une tendance...
Vous en êtes sûr de ça?
Bon, écoutez, je crois que maintenant, il y a plus de 40 ans de recherche convergente autour de ces questions-là.
Mais les conclusions ne sont pas toutes les mêmes.
Les conclusions sont toujours des conclusions qu'il faut prendre avec prudence et avec mesure, mais les conclusions montrent bien que la note, si elle devient quelque chose qui signifie toute seule, n'est plus satisfaisante. Et que la note peut décourager, peut même stigmatiser l'échec. Vous savez, l'important dans un système scolaire démocratique, je vais dire quelque chose qui peut surprendre, l'important dans un système scolaire démocratique n'est pas tellement d'encourager les plus forts. Ceux-là réussissent toujours. L'important dans un système scolaire démocratique, bon sang de bois, c'est de faire réussir, y compris ceux qui ont des difficultés. Autrement, on n'est pas dans l'école de la République, on est dans autre chose.
Ouais,
moi, je tiens à l'école de la République.
Ouais, mais quand on vous écoute sur la philosophie même de cette réforme que vous voulez... Quand on vous écoute, vous voulez privilégier l'égalitarisme plutôt que le mérite. En quoi le mérite, l'esprit de compétition, est forcément à bannir chez les enfants?
Mais je ne privilégie pas l'égalitarisme contre le mérite. Je pense que c'est tout à fait le contraire. Faire réussir les plus faibles, c'est avoir une vision, non pas égalitaire, mais une vision qui pousse à faire que le meilleur de l'éducation soit pour tous. Comme Antoine Vitesse disait, la culture populaire, c'est l'élite de la culture, le meilleur de la culture pour tous. Le meilleur de l'éducation pour tous, c'est pas faire de l'égalité. Égalitarisme niveleur, c'est partir de l'idée que chacun peut accéder à la plus haute culture scolaire.
Alors,
c'est donc juste l'inverse.
Expliquez-moi pourquoi ceux qui sont en tête du classement PISA, ce sont des systèmes ultra sélectifs comme le Japon ou la Corée du Sud. Expliquez-moi pourquoi la Suède, qui avait supprimé les notes, est en train d'y revenir.
Mais parce que, encore une fois, l'important n'est pas tellement les notes dans l'absolu, les grilles de codage de l'évaluation dans l'absolu. La Suède peut revenir à des systèmes de notes, d'ailleurs très largement à la demande des parents, et pas tellement à la demande.
Non, à la demande, le fait que les classements ont montré qu'il y avait une baisse du niveau des connaissances.
Oui, mais la baisse du niveau des connaissances en Suède est relativement faible par rapport à la dégradation que nous avons. Et encore une fois, le problème n'est pas tellement la note en elle-même. Le problème est ce que l'activité d'évaluation des élèves permet d'apporter comme information. Si cette information est très précise, si elle est très qualitative, on peut la coder en notes. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, on le sait bien, n'utilise plus la note de manière bête et méchante. À côté de la note, il y a une évaluation qualitative qui remplit parfois l'intégralité de la copie. Par ailleurs, on s'aperçoit en France que la note pousse souvent à faire des exercices qui sont des exercices trop simples, justement. Ce que nous demandons au Conseil supérieur des programmes, ça n'est pas nivelé par le bas, c'est renforcer plutôt la complexité des exercices que nous proposons aux élèves. Parce que les connaissances qu'ils ont à maîtriser sont des connaissances de plus en plus complexes. Donc je crois encore une fois qu'au lieu de se crisper sur les notes, on ferait mieux de réfléchir collectivement à qu'est-ce que doivent apprendre les élèves aujourd'hui dans la société qui est la nôtre et comment faire en sorte de leur faire prendre conscience de leurs atouts et de leurs faiblesses et de les faire progresser parce que nous avons besoin d'une société d'individus bien formés.
Qu'est-ce que les élèves doivent apprendre aujourd'hui ? Est-ce qu'ils doivent apprendre la morale laïque ? À partir de 2015, donc, seront dispensés des cours de morale laïque. C'est nécessaire ?
Écoutez, il y a un enseignement moral et civique qui doit être mis en place. C'est la loi Refondation de la République qui le prévoit. Lorsque j'entends le billet précédent sur la torture, on se dit que certains auraient dû le suivre, cet enseignement, parce qu'effectivement, il y a des valeurs à faire apprendre aux jeunes enfants dans une société très complexe, multiculturelle de facto, mondialisée, qui nous confronte à la pluralité des croyances, qui nous confronte à la pluralité des jugements.
Est-ce qu'il y a une seule définition de la laïcité, de la morale laïque, ou est-ce que c'est le rôle de l'école ? Est-ce que ce n'est pas opposer les familles à cette définition ? Est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs ?
C'est une très bonne question. D'ailleurs, il faudrait dire que cet enseignement moral et civique est plus un enseignement éthique et civique que moral au sens ancien de la morale. Il s'agit justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas un dogme qui s'impose, mais une capacité de débat qui parte de l'idée qu'on est un être humain soi-même et qu'on doit respecter les autres.
Michel Lussault, donc, qui va enflammer à nouveau le débat sur les écoles avec cette histoire de notes. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin.
Merci. Un débat qui va se poursuivre ce soir sur Inter dans le Téléphone sonne 19h20 avec Hélène Jouan.